pour la revue de presse des Hebdo, on accueille Arlette dans les studios. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Hier, c'était la 100e fois depuis le début de la 5e République qu'une loi passait en force avec le 49-3. Le canard enchaîné paraît le mercredi. Comment construire un hebdo en stand-by ?
Oui, c'est vrai que c'est pas facile. Sur la une de la semaine, Elisabeth Borne suppliait alors les députés LR. Restez droit dans vos votes. Éric Emtaz, dans son édito, se livrait à un exercice difficile, celui de deviner les stratégies de l'enjambeur Macron, qui, face à des promesses fluctuantes, est donc amené à compter et recompter sans cesse les voix. L'affaire se jouera à 10 voix près. Et alors, 49-3 ou pas ? S'interrogeait Emtaz. Eh bien, aujourd'hui, vendredi, la messe est dite. La semaine prochaine, les hebdos pourront se déchaîner et commenter ce jeudi noir. À la une du palmipède, en stand-by, il y avait du trash. Il faut sauver Ovidie. Après les retraites, une autre fracture annoncée par Libération à propos d'Héloïse Delsarre, alias Ovidie. Depuis 4 ans, j'ai cessé de faire l'amour, déclare celle qui en vient à regretter l'époque où elle était actrice et réalisatrice de films porno. Son dernier livre, La chair est triste, hélas, chez Julliard, est sorti hier, oui, un jeudi noir, vraiment. Alors je dis ça, je dis rien, c'est le titre d'un article sur un invité pire qu'Hanouna, sur le plateau du même Baba, qui a trouvé son maître en la personne d'un certain Gérard Fauré, tout à fait répugnant. Sans oublier la noix d'honneur décernée à Dupond-Moretti et à son geste tellement classe à l'Assemblée nationale. Et toujours dans l'élégance, un article intitulé « Films d'action » explique comment les entreprises du CAC 40, qui ont croulé sous les bénéfices en 2022, en veulent toujours plus. Alors ils ont trouvé un mécanisme très simple pour satisfaire leur appétit. Les rachats d'actions, lisez ça, un canard en stand-by, mais pas à tône.
Courrier International, avant même de connaître le dénouement du drama de la réforme, nous donne en couverture une caricature très cruelle d'Emmanuel Macron et un titre dévastateur sur sa présidence.
Eh bien écoutez, je comptais un peu sur toi pour la décrire cette couve, mais bon, je me lance. Macron grimaçant, tout en angles aigus, costumé en Napoléon, avec en guise de bicorne deux coqs gaulois. Et le titre, Retraite, la République en miettes. Comme les autres hebdos, Courrier International est sorti avant le 49-3 de jeudi et il a bâti ce numéro en recueillant les opinions de la presse étrangère. Pour Le Temps et Der Spiegel, quel que soit le résultat du vote, il n'y a pas eu de vote, mais enfin bon, Macron ne tentera plus rien d'audacieux sur le plan intérieur. Pour eux, Macron sera paralysé. Mais peut-on gouverner contre un pays, s'interroge le quotidien espagnol El País. Quel rôle joue la rue en tant que lieu politique et qui représente le peuple, écrit Mathias Krupa, le journaliste de la Zeit. Pour le Washington Post, les adversaires du projet du président Macron se disent mal compris. Leur fureur ne trouve pas son origine dans la paresse, mais dans le fait que les Français travaillent déjà dur, trop dur en fait. Et enfin, de l'Allemagne à l'Espagne, de la Suisse aux États-Unis en passant par le Mexique, dans la presse de chacun de ces pays, on trouve des articles qui concluent « Et la grande gagnante est Marine Le Pen ». Bravo, Monsieur Macron.
L'Express a choisi une autre stratégie, un saut dans l'avenir de Macron. Emmanuel Macron, ses ambitions pour 2027.
Oui, l'Express, dans son dossier, se lance dans un exercice extrêmement acrobatique. Prévoir l'avenir d'Emmanuel Macron après 2027. Mais avant, comme le pointe la presse étrangère déjà lue dans le courrier, il semble bien que pour Macron, le scénario qui le rend fou, c'est Marine Le Pen élue en 2027. Ok, mais au point d'organiser dès à présent sa succession ? Il semble bien que non. Alors, son avenir à lui, perso ? Cela peut paraître incongru, mais depuis le début du quinquennat, le président est rattrapé par 2027. Emmanuel Macron a fait de cette question anodine un nœud. « Quand j'étais petit, j'étais président », disait-il. « Et quand il sera grand, après 2 quinquennats, 10 ans, une vie d'enfant ?» Emmanuel est né de la veille, dit joliment un vieux complice, frappé par l'effronterie de celui qui ne s'embarrassait pas d'héritage ni politique ni historique. Il n'y a pas de monde avant lui, et je pense qu'il songe que le monde disparaîtra quand il fermera les yeux. Mais quand il fermera l'Élysée, il restera un monde à habiter. La vie devant soi, l'adrénaline derrière, la promesse du crépuscule. Son avenir, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Barack Obama. Mais avant de fermer l'Élysée, au premier jour du reste du quinquennat, appelez ça comme vous voudrez, vous n'aurez jamais autant d'imagination que les ouailles d'Emmanuel Macron pour trouver un petit nom enthousiasmant à cette poignée de mois durant lesquels le chef de l'État devra absolument redonner un cap et engager une dynamique, dixit un membre du gouvernement. À suivre, bien obligé.
La lecture de Télérama t'a mise d'humeur chagrine, Arlette.
Ah, oui, en lisant Télérama cette semaine, je me suis posé une question. Est-ce que j'aime toujours autant l'Amérique ? L'invitée l'américaine Laura Poitras, dans son dernier documentaire « Coup de poing », Toute la beauté et le sang versé, raconte le combat de la photographe Nan Goldin face au scandale des opioïdes qui font des ravages. 500 000 morts par overdose aux États-Unis. La photographe est devenue dépendante de l'oxycotine après une opération du poignet. Elle milite pour faire reconnaître la responsabilité de la famille Sackler, à la fois propriétaire du groupe pharmaceutique produisant l'antidouleur et mécène du monde de l'art. Et d'ailleurs, dans ce numéro, d'autres mécènes du monde de l'art sont pointés et contestés. En page 28, un autre article sur une lanceuse d'alerte, Ashley Jovic, salariée d'Apple, licenciée par la firme de la pomme croquée en 2021 pour avoir révélé que ce géant de la tech si cool transforme ses employés en cobayes, allant jusqu'à traquer leur intimité. Petit exemple, Apple a multiplié les expérimentations enregistrant et stockant toutes sortes d'informations intimes et biométriques sur ses salariés testeurs, scannant les conduits auditifs pour optimiser l'ergonomie des AirPods, mesure du sommeil, pression artérielle et même surveillance du cycle menstruel. Allez, on crache la pomme et on constate que l'Amérique ressemble de plus en plus à une série télé.
Le 1 interroge, climat, qui doit payer ?
Si le réchauffement de la planète s'impose par définition à tous ses habitants, il est loin de le faire de façon égale. L'Europe, les États-Unis et le Japon sont à l'origine de près de 60% des émissions totales de CO2 depuis la révolution industrielle, quand l'Afrique et l'Amérique du Sud n'en ont produit ensemble que 5%. Julien Bisson pose ainsi la triste vérité. Cette vérité est détaillée dans le poster par David Van Reybroek, historien et essayiste belge. Dans son article « Un colonialisme qui ne dit pas son nom », Bisson continue son préambule. Ce numéro du 1 se penche sur la difficile mise en place de la justice climatique dans les salles de marché, les tribunaux ou les conférences internationales. Pour Martha Torre-Schaub, juriste, la justice climatique est un champ du droit encore en chantier. Les conventions internationales sont rares, les outils globaux de compensation ou de réparation inexistants et les liens de cause à effet délicats à établir. Alors la preuve, illustrée par Jochen Gerner du protocole de Kyoto en 1997 jusqu'à la COP27 de 2022, où les États du Sud réclament une compensation aux pays industrialisés et surtout la compensation carbone est devenue un vrai levier d'inaction, selon Mirto Tilianaki, militante de l'association CCFD Terre Solidaire. Alors encore un numéro du 1 qui nous ouvre les yeux et nous empêche de prendre des vessies pour des lanternes.
Mais maintenant, s'il te plaît, Arlette, rêvons un peu avec l'horoscope de Rob Bresny pour les poissons.
Ce qu'il y a de plus difficile dans une vie d'artiste, a écrit la sculptrice poisson Anne Truitt, c'est de toujours s'obliger à travailler en accord avec sa sensibilité la plus profonde. Cela exige une grande discipline. Je crois que beaucoup de poissons, qu'ils soient artistes ou non, s'épanouiraient en vivant ainsi. Les semaines à venir seront un excellent moment pour suivre avec ardeur et dévotion la discipline dont parle Anne Truitt. Comment pourrais-tu toujours travailler en accord avec ta sensibilité la plus profonde ? Réfléchis à cette question en étant bien à l'écoute de tes pensées et de ton ressenti.